Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au Mali, le mouvement de contestation qui réclame le départ du pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de reporter un rassemblement à risque prévu vendredi dans un contexte hautement volatile, a indiqué un porte-parole mercredi soir. Le mouvement du 5 juin avait appelé à ce rassemblement à Bamako une semaine après une manifestation qui avait dégénéré en 3 jours de troubles civils qui ont fait 11 morts et 158 blessés, selon le premier ministre Boubou Cissé. Le mouvement, lui, fait état d'un bilan plus lourd. Les États-Unis, dans un message publié par leur ambassade à Bamako, ont appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à rejeter tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Ils ont appelé les forces de sécurité à éviter l'usage excessif de la force et ils ont salué la venue d'une délégation de la CEDEAO dans le cadre des efforts pour désamorcer la crise. Par ailleurs, le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, a accusé hier un groupe russe de mercenaires, Wagner, réputé proche du président Vladimir Poutine, d'avoir posé des mines terrestres et des engins explosifs improvisés dans la région de Tripoli, en violation d'un embargo onusien sur les armes pour la Libye. La Russie soutient l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, face au gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli. En République centrafricaine, où sont prévues une présidentielle et des législatives en fin d'année, le groupe d'experts de l'ONU chargé de contrôler l'embargo sur les armes a évoqué dans un rapport annuel publié hier un afflux de combattants étrangers dans ce pays. Ce document de 150 pages doit servir de base à un renouvellement à la fin du mois de l'embargo sur les armes en vigueur depuis 2013. La Guinée va rouvrir progressivement à partir de vendredi ses frontières aériennes fermées à cause du Covid-19, a annoncé le président Alpha Condé dans une allocution. Également, nouvelle réduction d'une heure du couvre-feu nocturne dans le Grand Conakry, qui sera imposé entre minuit et 4 heures au lieu de 23 heures et 4 heures. Il avait été levé ailleurs. La Guinée a dénombré 6276 cas et 38 décès, selon M. Condé. L'Afrique du Sud, pays le plus affecté par la pandémie sur le continent, compte désormais plus de 300 000 cas de coronavirus et 4 453 morts, ont annoncé hier les autorités sanitaires. En Asie, en Europe et dans les Amériques, la pandémie a provoqué une vague de reconfinement et de nouvelles mesures comme le port obligatoire du masque qui gagne du terrain, en particulier aux États-Unis. Ce pays le plus endeuillé du monde avec 137 200 décès a enregistré un nouveau record de contamination sur 24 heures hier, avec plus de 67 000 cas recensés selon l'université Johns Hopkins. Dans le monde, plus de 13,4 millions de cas ont été recensés, dont plus de la moitié considérés comme rétablis, et près de 580 000 décès. Le président Donald Trump a annoncé hier la nomination d'un nouveau directeur de campagne, Bill Stepien, en remplacement de Brad Parscale. Cette réorganisation intervient alors que le président sortant, fragilisé par la crise du coronavirus, est à la peine dans les sondages face à Joe Biden, son rival démocrate pour la présidentielle du 3 novembre. Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre des employés du géant chinois des télécommunications Huawei, accentuant encore leur campagne de pression sur la Chine qui a convoqué l'ambassadeur américain à Pékin. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington, D.C. Au micro, Idrissa Seydoudia. La suite de nos informations. En République démocratique du Congo, International Crisis Group demande au président Félix Tshisekedi de privilégier le dialogue entre les Ema et les Lendu pour que la paix revienne en Ituri. Le point avec Eddy Issango.
Ce conflit en Ituri, dans le nord-est de la RDC, a fait plus de 1000 morts depuis fin 2017 et un demi-million de déplacés, selon International Crisis Group, dans son rapport publié hier depuis Kinshasa. ICG demande au gouvernement de privilégier la négociation pour la reddition des milices Lendu, tout en soutenant un dialogue plus vaste entre les Ema, les Lendu et d'autres communautés de l'Ituri. L'ICG suggère que le président congolais Félix Tshisekedi devrait simultanément travailler avec les pays voisins pour qu'ils cessent tout appui aux assaillants. Il estime qu'un forum quadripartite réunissant l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda et la RDC aiderait à mettre fin à ces conflits. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans cette région entre 1999 et 2003. La CPI a condamné six chefs de milices. Le conflit a repris il y a 3 ans avec une milice mystico-religieuse, la CODECO, souvent impliquée dans les affrontements avec l'armée.
La Cour africaine des droits de l'homme a estimé hier que la mise en place des commissions électorales locales en Côte d'Ivoire était déséquilibrée en faveur du parti au pouvoir. À 3 mois de la présidentielle, la Cour avait été saisie par l'opposition ivoirienne Claire Morin-Gibourg.
Dans son arrêt, la Cour note un déséquilibre manifeste du nombre de présidences des commissions électorales locales issues de la majorité. Selon les statistiques officielles, la grande majorité des 558 commissions locales sont présidées par le parti au pouvoir. La Cour demande au gouvernement ivoirien d'organiser de nouvelles élections au niveau local. Elle relève aussi l'absence d'un mécanisme approprié pour nommer des membres de l'organe électoral issus de la société civile et des partis politiques, en particulier des partis d'opposition. L'opposition dirigée par le PDCI-RDA avait saisi en août la Cour africaine après avoir été déboutée par le Conseil constitutionnel sur la réforme de la commission électorale indépendante qui, selon elle, ne garantissait pas l'indépendance et l'impartialité de cet organe chargé d'organiser les élections. Fin avril, les autorités ivoiriennes ont retiré leur déclaration de compétence de cette Cour africaine, dénonçant des agissements intolérables. En 2016, cette même Cour avait jugé que la CEI n'était pas indépendante, demandant au gouvernement ivoirien de la réformer. La Côte d'Ivoire avait dénoncé une atteinte à sa souveraineté. La crédibilité de la CEI est jugée cruciale en vue de la présidentielle d'octobre prochain.
En Tunisie, le Premier ministre a présenté sa démission sous la pression du parti d'inspiration islamiste Ennahda. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Pour éviter au pays des conflits entre institutions, le chef du gouvernement, Elias Fakfak, a présenté sa démission au président Kais Saied. Ont écrit les services du Premier ministre. Ennahda avait déposé une motion de défiance contre le Premier ministre, mettant en avant les soupçons de corruption qui pèsent sur lui. Elias Fakfak est sous le coup d'une enquête parlementaire pour ne pas avoir cédé la gestion de ses parts dans des sociétés d'assainissement qui ont remporté des marchés publics ces derniers mois. Pour Ennahda, qui avait 6 ministres, il s'agit aussi de reconfigurer la coalition gouvernementale dans laquelle il se disait marginalisé. Principal parti du Parlement, Ennahda n'a remporté que 54 sièges sur 217 lors des législatives d'octobre et a échoué à réunir une majorité autour du chef de gouvernement de son choix. M. Fakfak, chef d'un parti social-démocrate sans élu, qui a prêté serment en février, va continuer à gouverner en attendant qu'un successeur soit nommé. Selon la Constitution, le président Saied a un délai de 10 jours pour désigner un nouveau Premier ministre.
La Minute Éco est Kiabadou.
En République démocratique du Congo, leader mondial de la production de cobalt et le premier producteur africain de cuivre, les compagnies minières disposent d'un mois pour mettre fin au confinement des employés sur les sites miniers. C'est l'annonce faite par le ministère du Travail dans une note circulaire datée du 13 juillet. Les actionnaires d'Ecobank Côte d'Ivoire, filiale du groupe bancaire panafricain du même nom, percevront le 20 juillet 2020 au titre de l'exercice 2019 un dividende net global de 19,432 milliards de francs CFA, ont annoncé les dirigeants de cette banque basée à Abidjan. Rapporté aux 55 millions d'actions qui composent le capital social, cela représente un dividende net par action de 353 francs CFA, ce qui représente 70,6% de sa valeur nominale. L'industrie américaine a connu un rebond en juin alors que les entreprises ont commencé à rouvrir au milieu de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi la Réserve fédérale, mais cette hausse n'a pas pu surmonter la baisse spectaculaire du deuxième trimestre. Le rebond a surpassé les attentes des analystes, mais le niveau reste inférieur de 10,9% à celui d'avant la pandémie.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le Comité international olympique et le Sénégal ont décidé de reporter à 2026 les prochains Jeux olympiques de la jeunesse initialement prévus à Dakar en 2022 en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
La commission exécutive du CIO a approuvé la proposition de report du président Macky Sall qui répond d'après eux à l'exigence de responsabilité et au souci d'efficacité qu'exigent les circonstances actuelles marquées par la pandémie de la COVID-19. Le président du Comité international olympique a reconnu que ce report des Jeux de Dakar 2022 permet au CIO, au Comité national olympique et aux fédérations internationales de mieux planifier leurs activités fortement affectées par le report des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et les reports ultérieurs d'autres événements sportifs majeurs. Il permet aussi au Sénégal de poursuivre les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse. Pour lever toute équivoque, le président sénégalais Macky Sall a d'ailleurs réitéré son soutien aux Jeux olympiques de Dakar et s'engage à faire de cette première manifestation olympique en Afrique, une réussite qui reste dans les mémoires. Conscient que cette nouvelle est décevante pour de nombreux jeunes athlètes, le CIO et le Sénégal comptent poursuivre leurs actions. Ainsi, le Comité international olympique continuera d'offrir à toutes les fédérations internationales et associations continentales olympiques l'intégralité du contenu des programmes éducatifs des Jeux olympiques de la jeunesse. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Football, le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 aura lieu au Al Bayt Stadium d'Alcor City au Qatar. L'annonce a été faite par la FIFA dans un communiqué présentant le calendrier. Ce stade de 60 000 places accueillera le 21 novembre le premier des 64 matchs de la première Coupe du Monde de l'histoire à se disputer en novembre-décembre. Le programme officiel de la compétition comprend un calendrier plus resserré jusqu'à la finale programmée le 18 décembre, jour de la fête nationale au Qatar. Devant 80 000 personnes au Lusail Stadium, le tableau final sera connu en mars 2022, une fois les phases de qualification terminées. 5 pays africains seront au Mondial 2022. Ici aux États-Unis, le meilleur marqueur de la NBA, James Harden, est arrivé la nuit dernière à Orlando pour rejoindre les Houston Rockets. En vue de reprendre la saison le 30 juillet, la star de Houston est arrivée au Disney World d'Orlando, en Floride, 5 jours après son équipe des Rockets. Aucune raison n'a été donnée concernant l'arrivée tardive de Harden, mais il doit se mettre en quarantaine avant de pouvoir rejoindre l'équipe pour s'entraîner. Avant l'interruption de la saison, James Harden affichait une moyenne de 34,4 points par match et fonçait vers un troisième titre consécutif de meilleur marqueur de la Ligue.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sevilla, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nouveau gouvernement au Tchad avec 19 départs et 15 entrées, dont 9 femmes. Les citoyens ont des avis partagés sur cette nouvelle équipe à quelques mois de l'élection présidentielle. Le point avec André Kodmadjingar. Notre correspondant à N'Djamena.
La nouvelle équipe passe de 31 à 35 membres, dont 29 ministres et 6 secrétaires d'État. Pour la première fois, 9 femmes entrent dans le gouvernement du maréchal Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 30 ans. Pour la gente féminine, c'est une avancée. Banata Tchalesseou est la secrétaire générale du Conseil national des femmes du Tchad.
Un gouvernement avec 9 femmes, d'habitude on a 8, mais là on a une femme de plus, c'est une petite avancée. Et on demande à ce que fasse encore beaucoup plus d'efforts parce que les jeunes féministes, c'est une population laborieuse. Non, on ne peut pas parler encore de victoire parce que quand tu dis victoire, c'est quand tu es satisfait à 100% et les femmes vont toujours rester vigilantes par rapport à ça. Que ça soit secrétaire d'État, que ça soit ministre, il n'y a pas de demi-ministre quoi.
L'ancien chercheur Ahmad Mohamed Hassan estime pour sa part que les équilibres en ce qui concerne la géopolitique sont maintenus.
Pratiquement toutes les provinces sont présentes dans ce gouvernement. Cela marque le caractère représentatif ethnique, tribal et provincial et régional du gouvernement. Et les gens se sentent associés à la gestion de la chose publique. Donc, ça reflète le caractère national du pouvoir en place. Ce dernier gouvernement, compte tenu du dernier chronogramme de la CENI, peut aussi être interprété comme une lecture préparative de prochaines élections présidentielles. Pourquoi pas? Que l'enjeu principal, la représentation politique régionale, coïncide avec l'opportunisme électoraliste.
Pour le politologue Dr. Ivaris Ngarlam-Toldé, 19 départs, c'est trop. Certains citoyens estiment que ce remaniement ne changera pas grand-chose dans leur quotidien et donc un non-événement.
On a crié que les femmes ne sont pas représentées, ainsi de suite, de présent à écouter, il a cherché à corriger. C'est juste pour respecter les lois, mais dans la gestion réelle, est-ce que les gens ont les mains libres et ils sont là pour combien de temps?
En tant qu'un jeune, je suis ravi de voir l'entrée des jeunes, parce que depuis longtemps, le gouvernement ne tient pas compte de la jeunesse. Donc, particulièrement, je remercie notre président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, de penser à la jeunesse.
Je trouve cela insignifiant pour 2 jeunes dans le gouvernement. 5 au minimum, je pourrais comprendre, mais 2, c'est insignifiant.
Oui, 19 départs, c'est bon, mais les gens qu'on les a ramenés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Même si on dégage tout le monde dans ce gouvernement et qu'on ramène de nouvelles têtes, ceux-là auront face au président maréchal qui est incontournable. C'est lui qui dicte tout et ils ne peuvent rien sans lui. Les gens viennent pour servir un homme. Donc moi, ce qui me concerne, ça ne me dit rien. C'est comme un non-événement.
Le départ remarquable est celui de Nouradine Deloua Kassiré Koumakoui, considéré comme le père de la 4e République. Le secrétaire général de la présidence, Kalzeb Paimi Debe, a fait maintenant une posture du premier ministre. André Kodmadjingar Djamena pour VOA Afrique.
Abdourmandia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, les appels au calme et au dialogue se multiplient au Mali après les violences meurtrières du week-end. La 3e manifestation organisée par le mouvement du 5 juin contre le pouvoir a dégénéré, faisant au moins 11 morts et plus de 100 blessés. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle et ses adversaires lui demandent d'aller plus loin en organisant des élections législatives partielles. Quelle solution à la crise politique au Mali? Nous discuterons de cela avec nos invités ce jeudi 16 juillet 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.
Au Sénégal, le ministre des Forces armées Sidiki Kaba et le chef de l'armée, le général Biram Diop, ont lancé mardi les travaux de construction d'un nouveau camp militaire à Goudéry, près de la frontière avec le Mali. Cette garnison devra notamment faire face aux menaces transfrontalières. Eric Manera Kidza a joint à Dakar l'analyste politique Ibrahim Makan.
Oui, je pense même que la construction de ce camp est vraiment tardive, dans la mesure où cela fait quand même plusieurs années que le conflit au Mali perdure et que le Mali est un voisin important du Sénégal. et que le Sénégal doit vraiment se préparer à toute éventualité. Parce que ce qui se passe actuellement au Mali est quand même très difficile à accepter. C'est un pays qui est pratiquement sur le point de s'écrouler. C'était d'abord le nord qui était occupé. La crise a atteint maintenant le centre du Mali. La deuxième ville du Mali, qui est à 200 km de Bamako, est aujourd'hui presque à portée de main des groupes djihadistes. Il y a deux mois, une attaque, je pense, à partir de la Mauritanie, d'une ville qui est proche de Kaï, et Kaï n'est pas très loin du... C'est la première grande ville au Mali quand tu quittes le Sénégal. Donc le Sénégal a toutes les raisons de bien se préparer, d'assurer un maillage complet de son territoire avec les forces de sécurité pour vraiment faire face à toute éventualité, parce que la situation du Mali l'explique.
Mais c'est aussi une zone au service du banditisme et de nombreux trafics.
Oui, mais pas un banditisme de nature à forcer le gouvernement à mettre en place un camp militaire d'importance. Vous savez que ici au Sénégal, le milieu rural est le domaine privilégié de la gendarmerie. On a l'une des forces de gendarmerie les meilleures d'Afrique, non seulement est très bien équipée, mais aussi très professionnelle, et qui vraiment arrive à bien contrôler l'essentiel du territoire. Bon, bien sûr, ça et là, il y a le banditisme qui se développe, surtout de banditisme lié au vol de bétail, banditisme lié aussi à Casamance, un peu à ce qui reste du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, où se sont transformés maintenant en des bandits pour faire le commerce du bois et autres. Mais de façon générale, le camp qui est actuellement en vue, c'est un camp qui est vraiment chargé pour assurer une sécurité du territoire sénégalais en cas de crise venant de la partie est du pays.
Faut-il envisager d'autres camps militaires sur d'autres frontières?
Je pense que le Sénégal se prépare, parce que ce qu'on a pu observer ces derniers temps, depuis 3 ou 4 ans, c'est que chaque année, l'État recrute au moins 1000 à 2000 personnes dans les services de sécurité du pays.
L'analyste politique Ibrahim Khan, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
Au Cameroun, les médecins se battent sur deux fronts. Une épidémie de choléra touche plus de 400 personnes et a fait 56 morts, alors que le Covid-19 a fait plus de 15 000 contaminations. Ces deux maladies contagieuses mettent en évidence le manque d'assainissement et d'eau potable dans certaines régions, nous dit de Yaoundé Moki Edwin Kinzeka, dans ce reportage repris ici par Lionel Gahima.
Christine Aurore Ekedi, médecin militaire dans un hôpital à Kribi, une station balnéaire du sud du pays, affirme que les cas de choléra augmentent chaque jour. Selon elle, le personnel médical est débordé par l'afflux des patients atteints de Covid-19 et du choléra.
Les cas se sont étendus 7 heures sur 11, déjà attaqués par le choléra. Il y a des tests rapides qui ont été distribués dans les formations sanitaires privées et publiques. On a déjà la diarrhée, ne restons pas à la maison. Rendons-nous à l'hôpital dans une formation sanitaire.
Cette semaine, le ministère camerounais de la Santé a signalé qu'au moins 400 personnes sont affectées par le choléra dans les villes côtières de Douala et Kribi et dans les villages environnants, et qui a déjà eu au moins 56 morts. Pour Flavie Ntoutoum, maire du 2e arrondissement de Kribi, le manque d'assainissement adéquat et d'eau potable contribue à propager la maladie.
Il faut délocaliser les pêcheurs de l'eau. Mes équipes sont sur le terrain en ce moment. Ils sont déjà en train de désinfecter les puits Et une semaine après, on va passer à l'action, on va détruire toutes les toilettes qui sont insalubres là-bas.
Les villages côtiers manquent généralement d'eau potable. Rosette Kedi, une habitante de Kribi, dit qu'elle dépend de l'eau de mer et d'un ruisseau pour ses besoins quotidiens. Mais certains membres de la communauté utilisent la mer et le ruisseau comme toilette.
Il n'y a même pas une goutte d'eau, l'eau ne coule pas. Voici même 3 mois depuis, même que le Covid, on croyait qu'on devait nous faire même l'eau. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau, on souffre. Là, on marche les kilomètres pour aller dans les sources chercher de l'eau.
Les responsables de la santé disent avoir déployé des équipes médicales et des agents humanitaires dans les zones touchées pour enseigner aux habitants les normes d'hygiène de base. Les consignes du ministère de la Santé passent en boucle sur les ondes pour conseiller de faire bouillir l'eau avant de la boire, se laver souvent les mains avec du savon et utiliser des latrines.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi a appelé le nouveau gouvernement de Bujumbura à coopérer avec les Nations Unies. Créée en 2016, cette commission demande aux autorités de faire cesser les violences et de démontrer la volonté de changement. Abdourahman Dia a joint Doudou Dien, directeur de cette commission d'enquête onusienne.
De très nombreuses années que la question du Burundi est sur l'agenda international, au Conseil de sécurité, au Conseil des droits de l'homme. Et il se trouve tout simplement que les violations des droits de l'homme continuent, mais il y a un événement majeur qui vient de se passer, regrettable, triste, le décès du président Nkurunziza et son remplacement par un nouveau président. Et donc, ce que nous, à la commission d'enquête indépendante de l'ONU sur les droits de l'homme, sur le Burundi, nous pensons que c'est un tournant historique, et donc l'occasion d'un changement de fond sur la question des droits de l'homme et le respect de la démocratie.
D'accord. Et le président Evariste Ndayishimiye a tout de même réitéré sa volonté de poursuivre la politique de son prédécesseur, avec qui d'ailleurs il a longtemps cheminé.
Il a en même temps exprimé en termes certainement un peu mitigés son souhait en tout cas de respecter les droits de l'homme, etc. Et donc il y a des frémissements en ce qui concerne ses intentions. Mais en tout état de cause, pour nous, commission d'enquête, et je crois en généralement pour la communauté internationale, ce tournant historique doit nous amener à dire au nouveau pouvoir, vous avez l'occasion donc de faire des changements de fond et durables sur la question du respect de la démocratie et des droits de l'homme. La scène politique burundaise est complexe et que vous savez très bien que le président élu n'était pas le candidat du président, de l'ancien président. Vous le savez très bien également. C'est une donnée factuelle. Nous, notre mandat n'est pas politique. Mais nous tenons compte de toutes ces nuances et toutes ces complexités. En tout état de cause, notre position est simple. Notre mandat, c'est droit de l'homme. Il y a un changement politique à la tête de l'État. Nous disons que c'est un moment de transformation qualitative du respect des droits de l'homme et de la démocratie. Et nous appelons la communauté internationale à être vigilante pour voir s'il y a des changements de fond, non.
Alors, justement, vous demandez à cette communauté internationale d'être vigilante, mais comment est-ce qu'elle doit s'y prendre pour éviter que la population ne continue de souffrir un peu des sanctions, par exemple?
La communauté internationale, parce qu'il faut quand même rappeler que le Burundi n'est pas arrivé sur l'agenda du Conseil des droits de l'homme ou du Conseil de sécurité comme cela pour essayer d'accuser les Burundais ou les autorités burundaises, mais pour dire que le mandat du Conseil des droits de l'homme et du Conseil de sécurité, c'est la paix, le respect des droits de l'homme et en dernière analyse, le droit de la population burundaise à la paix, à la justice, à la prospérité et à la liberté.
Doudou Dien, qui dirige la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, joint à Paris.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.